Vous écoutez RTL.
C'est parti pour le dialogue avec vous au 3210. Les auditeurs, on va commencer par Jean-Claude pour évoquer ce fameux scandale de la viande. Jean-Claude qui nous appelle d'Alfortville. Bonjour à vous.
Bonjour Jean-Claude.
Oui, bonjour. Alors, ma question, la viande de cheval. Bon, on a été trompé sur la marchandise, c'est vrai. Mais on mange quand même du cheval. Pourquoi ne pas donner tous les plats cuisinés, tout, comment ça s'appelle, cassoulet, tout ce qui s'ensuit, aux associations, Restos du Cœur et autres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont faim quand même.
Ça, c'est vrai.
Et vous faites bien d'ailleurs de poser cette question, hein, qui est d'ailleurs en suspens depuis le début de cette affaire, parce que les associations, sous votre respect, Jean-Claude, elles ne vous ont pas attendu pour réclamer, pour dire il y a des tonnes aujourd'hui de produits fabriqués, de plats préparés.
Et qui sont retirés de la vente.
Qui sont retirés de la vente, on les attend. Mais il faut des autorisations, et visiblement, ces autorisations, ils ne les ont pas encore obtenues.
Oui, vous avez d'autant plus raison qu'ils sont retirés parce qu'il y avait une fraude sur l'étiquette, mais que les produits eux-mêmes ne sont pas jugés mauvais. Et si on aime la viande de cheval, ils sont même très bons.
Tout à fait. Bah, vous faites bien de le signaler, Jean-Claude.
Tout ce que j'avais à dire, parce que y a des gens qui ont faim. Hein.
Mais
c'est
mangeable. Oui, mais on avait évoqué cette question la semaine dernière. On va se repencher sur ce dossier parce que visiblement, du côté du gouvernement, on n'a toujours pas donné les autorisations pour distribuer ces j'imagine centaines de tonnes de produits aux associations comme les Restos du Cœur qui ont été retirés. Vous faites bien de nous le dire, Jean-Claude. Merci. Merci beaucoup.
On vous souhaite une bonne journée et on reprend ce dialogue avec vous.
Au revoir, Jean-Claude.
Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi. Elisabeth Martichoux, Vincent Parisot.
Autre dossier, ce qu'on mange, parce qu'on ne mange pas toujours ce qu'on croit. Hein. Évidemment, il y a l'affaire de la viande de cheval. Et puis, on a découvert hier que, effectivement, la société Panzani commercialisait des produits qu'elle ne fabriquait pas, puisqu'en l'occurrence, c'était William Serin. Et c'est William Serin qui avait acheté le cheval en cause. Et Bernard est routier et nous appelle de Rouen. Bonjour Bernard.
Bonjour Bernard.
Bonjour.
Alors, dans le cadre de votre travail, je crois que vous travaillez pour la société William Serin.
Non, je ne travaille pas pour la société William Serin.
Oui.
Je travaille pour un transporteur qui a eu l'occasion de transporter de la marchandise à destination de l'entreprise William Serin. Je ne travaille pas pour eux.
D'accord.
On est un intervenant dans le transport, quoi. Et j'ai appelé parce qu'il m'est arrivé de charger au Havre. C'est chose commune, hein, ça se passe tous les jours. Un chargement de lentilles, 25 tonnes de lentilles en sac, de provenance de Chine, et qui était livré chez William Serin en banlieue parisienne à Lagny-sur-Marne.
Pour des plats préparés qui vont être distribués, j'imagine, en France, quoi.
Non, de la marchandise brute, c'est-à-dire des lentilles
oui, trucs. Mais utilisées pour des plats préparés qui sont vendus, j'imagine, sous la marque William Serin en France.
Tout à fait, ouais.
Alors, je n'ai pas regardé sur l'étiquette s'il y avait marqué, vous savez, dans le détail, Chine en provenance de... lentilles en provenance de Chine. Qu'est-ce qui vous semble évidemment contestable dans cette affaire?
En fait, il n'y a rien de contestable, non. Parce qu'on peut acheter sa marchandise où on veut, s'il trouve le prix intéressant, les lentilles qui viennent de Chine. Mais je trouve ça complètement idiot de faire venir des lentilles en Chine. On a largement la production pour la faire en France. Mais je pense que l'usine, en fin de compte, traite, fabrique sûrement des saucisses lentilles qui sont vendues dans toute l'Europe. Et le meilleur coût pour acheter des lentilles, ça doit être la Chine pour l'instant. Il n'y a pas de fraude.
C'est ça qui est terrible, c'est que malgré le transport, c'est encore plus intéressant d'acheter de la lentille chinoise que de la lentille du puits.
Ce qu'on découvre, parce que c'est vrai que quand on mange des lentilles, on ne pense pas qu'elles viennent de Chine, Bernard. Ça, vous avez un peu raison quand même.
Tout à fait.
Bah, écoutez, en tout cas, c'est vous. Ça, c'est vous qui aviez transporté, entre autres, hein, votre entreprise, en tout cas, des lentilles en provenance de Chine chez William Serin. Bah, écoutez, grâce à vous, les auditeurs, l'enquête continue sur ce qu'on a dans nos assiettes au final et surtout d'où ça vient. Merci à vous Bernard.
On vous souhaite une
bonne journée.
On vous embrasse.
Au revoir.
Alors, on évoque peut-être la démission du pape. Elle a frappé les fidèles, les centaines de milliers de fidèles qui étaient place Saint-Pierre, mais elle a aussi frappé Sylvie qui est restée à Caen, Sylvie, dans le Calvados. Bonjour Sylvie.
Bonjour à tout le monde.
Bonjour à vous, Sylvie.
Alors, cette démission, tout d'abord, est-ce que vous la trouvez normale? Il a dit, j'ai démissionné pour le bien de l'Église.
Ben oui, c'est sûrement vrai. Enfin, moi, dans la forme, je trouve ça bien, la oui. démission du pape. C'est dans le fond que je trouve pas ça très normal. Et à mon avis, il aurait dû, depuis qu'il est pape, faire une loi, faire un dogme, enfin, réfléchir à plusieurs sur la possibilité qu'un pape peut démissionner pour des problèmes de santé. Et que là, lui, de lui-même, il a dit « Moi, j'impose qu'un pape démissionne ». Donc, c'est un manque d'ouverture qu'il a eu. C'est un pouvoir. Mais par contre, ce que je trouve très bien par rapport à ça, c'est qu'il a eu l'humilité. Il n'en pouvait plus. Oui. Il a eu l'humilité d'arrêter. Ça, c'est très bien. Mais c'est dans la façon de faire.
Oui. Mais même si, d'une certaine manière, maintenant qu'il l'a fait, j'allais dire, voilà, ça va s'imposer comme une possibilité aujourd'hui, désormais, pour chaque pape.
Alors, bah, c'est ça à savoir. Est-ce que ce sera, est-ce que le prochain pape qui aura un peu de fatigue pourra dire bon ben je démissionne ou pas? Est-ce que on en fera une généralité ou est-ce que ça restera un cas exceptionnel?
Vous auriez préféré que voilà, il prépare un petit peu le terrain d'un point de vue, alors je ne sais pas si on peut dire légal en ce qui concerne l'Église, mais en tout cas institutionnel.
Voilà, c'est ça.
Merci beaucoup de votre appel, Sylvie. On vous souhaite une bonne journée dans le Calvados.
Merci beaucoup.
Au revoir, à bientôt.
Et on va aborder la question du chômage avec cette déclaration aujourd'hui de François Hollande au Conseil des ministres. La promesse d'inverser la courbe est tenable. Michel Sapin aussi qui déclare que ce n'est pas une déclaration en l'air, alors qu'on avait douté finalement il y a quelques jours de la promesse de l'Élysée. Alors qu'en pensez-vous de cette promesse? Et puis surtout revenons sur la question la plus essentielle, c'est-à-dire votre situation par rapport au marché de l'emploi. Et c'est Corinne qui nous appelle du Havre. Bonjour à vous Corinne.
Oui, bonjour.
Bonjour Corinne.
Bonjour, voilà, moi je suis au RSA, donc ça fait déjà un petit moment que je suis au chômage, j'ai 53 ans. Je ne retrouve pas. Je ne retrouve pas, mais on ne nous incite pas non plus à nous tendre la main.
C'est-à-dire
à savoir que lorsque l'on retrouve, même ne serait-ce que 15 jours ou un mois, quelque chose d'intérim, on nous retire, alors ce qui parfois peut être normal, certaines choses. On va vous retirer un morceau d'APL, on va vous retirer un morceau de RSA, si bien que vous y perdez. Vous n'y gagnez pas à aller retravailler. Alors on dit que les gens sont fainéants. Non, c'est qu'ils perdent tellement d'argent, parce que d'abord il faut se déplacer, il y a l'essence, les tickets de bus, etc. On ne nous donne pas de plus.
Mais si vous trouvez un petit contrat court, par exemple, de quelques jours, vous n'avez pas intérêt à l'accepter, si on vous propose ça.
Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et la CAF nous le dit. Hein. Moi, la CAF m'a dit, mais arrêtez, textuellement, arrêtez vos conneries, parce que vous vous mettez de plus en plus dans les problématiques.
Quelle connerie, excusez-moi, je reprends votre mot.
De retrouver, c'est leur mot, de retrouver des petits boulots.
C'est-à-dire que la CAF, la Caisse d'allocation familiale, vous a suggéré de ne pas prendre les petits boulots. Parce que sinon, vous alliez perdre ces allocations.
Vous allez vous mettre en danger, finalement. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire du bénévolat, quoi?
Alors, c'est ce qu'on m'a dit, parce que là, je suis en train de monter un projet qui va créer des emplois. Et là, les subventions, il n'y en a pas, parce que voilà, il y a plein de choses. Alors que là, ça va créer des emplois, ça sera aussi pour que d'autres personnes, puisque c'est un garage social, c'est pour que des personnes puissent retrouver un emploi en faisant réparer leur véhicule à moindre coût.
Alors, je comprends Corinne, juste, quelle est votre suggestion? Est-ce qu'il est possible que qu'un chômeur conserve l'intégralité de ses aides en travaillant un petit peu?
Mais ce serait déjà au moins un lancement. Parce que si on vous retire, moi je prends mon cas, si vous êtes à 400 euros, une fois que vous avez retiré tout, il vous reste même pas un euro par jour pour vivre. Si en plus, quand vous prenez, parce que moi j'en vois des petites missions qui sont un mois, qui sont deux mois, qui sont trois mois. Oui. Sauf que, bien sûr, il faut aller travailler, donc on dépense de l'argent en essence, on peut pas non plus y aller habillé comme on est chez soi, etc. Et on vous retire de l'argent. Là, c'est vraiment garder peut-être c'est certainement faisable, parce qu'on dit, on le dit, hein, dans le fait, on le dit. On dit, vous gardez une partie de votre RSA. Mmh,
c'est ça.
Oui, c'est ça. C'est
en
fait
plus,
pour ça.
Sauf que dans la réalité, et j'ai un courrier quand même qui l'atteste, hein, parce que quand j'ai fait ma déclaration, moi, que j'avais travaillé quand même 15 jours, c'était quand même pas énorme. Quand j'ai fait ma déclaration à Pôle emploi, 15 jours après, j'ai eu la CAF qui m'a envoyé un courrier me disant qu'on allait me retirer 100 euros par mois.
Sur la totalité de votre RSA, sur les 400.
Voilà. Ouais. Donc on vous retire un petit peu, par petit peu, parce qu'on ne peut pas vous retirer
d'un
seul coup.
Mais vous gagnez plus de 100 euros par mois par ces petites missions.
Oui, mais on me retire, moi. On me le retire, si vous voulez. Je vais aller travailler. Je vais gagner, je vais gagner 200 euros.
Oui.
On va me retirer 200 euros sur mon RSA. Où est-ce que j'y gagne, puisque je vais perdre de l'argent en allant avec de l'essence travailler si c'est très loin.
Oui, c'est effectivement, d'ailleurs, c'est une incongruité qui est souvent évoquée, Corinne.
Voilà.
Restez avec nous, parce que Patricia nous appelle de Dôle, dans le Jura. Et Patricia, bonjour.
Bonjour Patricia. À vous.
Vous êtes directrice d'une structure d'insertion par l'activité économique. Vous vous occupez donc très concrètement de replacer les demandeurs d'emploi sur le marché.
Oui.
J'imagine, Patricia, juste ce que nous dit Corinne, comme d'autres auditeurs d'ailleurs extrêmement souvent, hein, le retour à l'emploi n'est pas toujours intéressant quand on est allocataire et qu'on ne trouve que des toutes petites missions. Qu'est-ce que vous leur dites alors?
C'est pas qu'il n'est pas intéressant, c'est qu'il n'est pas expliqué et accompagné. Effectivement, moi je suis directrice d'une structure qui accueille en moyenne 500 personnes à l'année. Elles sont toutes suivies individuellement par un accompagnateur ou une accompagnatrice socio-professionnelle. Et effectivement, lorsqu'il y a reprise d'activité, il y a des basculements de sommes.
Voilà.
C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont, alors je ne vais pas entrer dans les détails, c'est assez compliqué, administrativement parlant, qui sont en RSA socle, qui peuvent bénéficier du RSA du Conseil Général, et qui vont basculer en RSA d'activité, avec un RSA qui va être complémentaire, mais effectivement, qui ne va pas dépasser ce que la personne touchait avant. On ne peut pas en retravaillant, percevoir autant que quand on reste à la maison. Ce qu'il faut savoir, ce que ne savent pas très souvent les demandeurs d'emploi, c'est lorsqu'ils acceptent des missions comme celle-ci, qui sont parfois nombreuses. Nous, on a beaucoup de gens qui travaillent à l'année. On a salarié 226 personnes cette année. Et bon, nous sommes un réseau national. Il y a 700 associations en France. C'est aussi pour ça que je voulais redonner un petit peu de baume au cœur à nos auditeurs et à ceux qui sont en difficulté.
Vous allez le faire, mais expliquez-nous comment on peut faire quand on est effectivement au RSA, qu'on se dit, bah voilà, moi, avec les frais d'essence, parce qu'il faut aller travailler loin, à l'arrivée, je vais pas y gagner, je vais y perdre.
Voilà, donc à l'arrivée, donc le RSA, ce qu'il faut faire, c'est effectivement quand on n'a plus du tout d'espoir, et c'est quelqu'un qui a été 2 ans au chômage en arrivant dans le Jura qui vous le dit, quand on a un petit peu perdu tout espoir, je recommande à vos auditeurs de se rapprocher de l'association intermédiaire qui travaille dans l'activité par l'insertion par l'activité économique.
Oui.
Il y en a 700 en France, toujours en proximité. On peut les trouver sur les sites, mais les pôles emploi les connaissent aussi. Donc les assistantes sociales les connaissent. Donc vous vous dirigez vers ces associations intermédiaires qui vont vous prendre en charge, vous inscrire, vous allez bénéficier d'un accompagnement individualisé. Il va vous être proposé des missions de travail en relation avec votre projet professionnel, votre situation de famille, votre état de santé. Et en fonction de cela, il y a aussi des solutions à la mobilité, au logement. Il y a beaucoup de choses qui existent, mais les gens ne le savent pas.
Et Patricia, qui tiendront compte, évidemment, de votre situation pour qu'en retravaillant, vous n'y perdiez pas au final, j'imagine.
Voilà.
Qu'on puisse vous remettre le pied à l'étrier sans perdre le peu d'argent déjà qu'on a le mois.
Tout à fait. Tous les jours, nous, on l'entend aussi. Des gens qui nous disent, oui, mais si je retravaille 2 heures pour vous, je vais perdre ça. Ce que ne savent pas les gens, c'est qu'en cumulant les missions, ils reculent leur droit au chômage. Donc, ils vont le toucher plus longtemps.
Plus longtemps, oui.
Ils peuvent se rouvrir. On a eu le cas ce matin, une dame qui était en fin de droit, s'est rouvert des droits en ARE. Bon, ça parlera aux demandeurs d'emploi, allocation de retour emploi. Et il y a aussi des solutions de mobilité. Il y a des personnes qui peuvent... Il y a des plateformes de mobilité, il y a des plateformes de location de deux roues. Il existe plein de choses.
Juste pour finir, Patricia, est-ce que vous, dans votre structure, vous avez des offres en ce moment?
Nous avons des offres en ce moment. Nous pouvons répondre aux demandes des particuliers, des entreprises, collectivités, associations. Et pour les gens qui seraient intéressés notamment par la filière tourisme, nous sommes en train de signer avec un syndicat national, une convention nationale pour faire travailler, il y a 550 000 demandes sur le territoire français de postes non qualifiés.
Combien vous dites de demandes ?
550 000.
D'offres d'emploi non qualifiées dans le secteur du tourisme et que vous vous promettez de, d'orienter en tout cas.
Voilà, avec ce syndicat. Donc, contactez les structures par l'insertion par l'activité économique. Venez vers nous. Hein, déjà, vous aurez un accueil et on prend en compte aussi le côté familial. Hein, ça, c'est très important.
Oui, bien sûr.
Parce que quand on a des soucis plein la tête, on a du mal aussi à aller travailler. Mm-hmm. Et il y a une solution pour tous.
Merci. Et Patricia, qui sait de quoi elle parle ? 2 ans de chômage et aujourd'hui à la tête d'une structure d'insertion. C'était très précieux de vous entendre, Patricia. Bonne journée et merci aussi à Corinne, bien sûr.
Réagissez sur l'actualité. Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi, Vincent Parisot, Elisabeth Martichoux.
Et vous, au 3210, et Emmanuel qui nous appelle de Quimper pour ouvrir le dossier Dominique Strauss-Kahn. Bonjour, j'allais dire Dominique, non. Bonjour Emmanuel.
Emmanuel.
Emmanuel, une fois, Emmanuel, deux fois. Emmanuel est parti. Eh bien, autre dossier.
On le retrouvera tout à l'heure. Quimper, c'est tellement joli dans le Finistère. On va revenir sur le dossier de la viande, Vincent, puisque vous êtes très nombreux à nous appeler encore aujourd'hui. Par exemple, Étienne, de Bettencourt, dans les Vosges. Bonjour à vous.
Bonjour, Étienne. Étienne.
Oui, bonjour.
Vous travaillez donc à Bettencourt, je disais, et vous travaillez dans un abattoir.
Donc c'est Bettencourt et non pas Bettencourt comme Ingrid.
Ah d'accord, Bettencourt.
Mais il n'y a pas de mal.
On a mal lu.
Ça reste dans les Vosges.
Ça reste dans les Vosges, près de Mirecourt.
Très bien. Et vous, dans les Vosges, vous travaillez dans un abattoir.
Oui, donc je travaille dans un abattoir, comme je disais, et je suis en même temps cavalier, éleveur et meneur d'attelage.
Voilà, formidable.
Donc le cheval, pour moi, c'est plutôt en ami qu'en rôti.
Oui.
Quand j'entends des gens qui disent la viande de cheval c'est sain, certes, quoique, parce qu'elle n'est pas conseillée pour les gens qui sont cardiaques, c'est comme le gibier. Et secondo, moi je tiens à leur dire à ces gens-là que me faire manger du cheval à mon insu, c'est comme ça équivaut à faire manger du porc à un musulman ou à un juif cachère.
Oui, oui, c'est, vous êtes un ami des chevaux, mais quand ils sont sur leurs pattes.
Voilà. Et donc, bon, je peux me permettre de parler du sujet de la viande parce que je suis en plein dans le milieu.
Bien sûr.
Ce que je voulais dire, c'est que les gens ouvre les yeux sur ce problème parce qu'on a plein de scandales qui arrivent. Mais il faut quand même se dire une chose, c'est qu'une bête de viande, il faut 3 ans pour la produire, ça a un coût. Et donc, quand vous trouvez dans vos assiettes de la nourriture à très bas prix, même s'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas faire autrement que de payer très peu cher, c'est qu'il y a un truc. Il y a un truc, c'est pas possible autrement. Et donc, Monsieur Spanghero qui vous dit « j'étais pas au courant », enfin, c'est pas Monsieur Spanghero, mais le directeur qui vous dit « j'étais pas au courant, on le savait pas », ce monsieur, faut qu'il se reconvertisse dans la plomberie. Parce qu'il faut savoir que la viande de cheval et la viande de bœuf, elle est très différente d'aspect, d'odeur et au toucher. D'ailleurs, il y a beaucoup de bouchers qui n'aiment pas travailler la viande de cheval parce qu'elle est un peu collante et elle a un aspect assez rébarbatif, on va dire. Donc, ce monsieur, il a quand même mis, excusez-moi, mais dans la mouise, tous ces ouvriers, parce que je pense que les ouvriers n'avaient pas grand-chose à dire, devaient faire leur boulot, même s'ils savaient que c'était de la viande de cheval, et se taire. Parce que la viande qui arrive, même congelée, il ne faut pas dire qu'on ne pouvait pas la voir. Ça, c'est un mensonge.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur les contrôles qu'il y a, puisque vous travaillez vous-même dans un abattoir. Comment se passent les contrôles ?
Eh ben les contrôles, déjà il y a un contrôle, ce qu'on appelle antémortem, c'est-à-dire quand les bêtes arrivent vivantes, elles sont contrôlées, elles sont identifiées, parce qu'il faut savoir que une vache, on a vu le problème avec Monsieur Michel-Edouard Leclerc hier, une vache, elle peut être laitière, de race laitière, elle peut être de race viande ou de race mixte. Donc les bêtes sont déjà enregistrées, on vérifie bien que la vache qu'on nous présente, c'est bien la bonne bête, ou le taureau, ou le bœuf. Et ensuite, une fois que la bête est abattue, il y a des vétérinaires qui contrôlent l'état de la viande. Si elle est,
ça, c'est
si
la viande française, mais j'imagine qu'on achète de la viande de l'étranger. Est-ce qu'on est au courant des contrôles qui se passent ? C'est ça, à l'étranger.
À l'étranger, il faut savoir que les gens, comme M. Spanghero qui achète de la viande à l'étranger, faut savoir que il n'y a qu'en France pour l'instant que les contrôles pour l'ESB, par exemple, la vache folle, sont obligatoires sur les bovins.
C'est ça, peut-être pas les mêmes contrôles, je ne sais pas moi, en Roumanie ou...
Eh ben, je ne pense pas, honnêtement, je ne pense pas, parce que je peux pas être affirmatif complètement sur le sujet, mais par exemple, je sais qu'en Angleterre, en Italie, en Espagne, les contrôles USB ne sont pas obligatoires.
Alors, Étienne, d'abord un petit coup de griffe d'un auditeur au 64 900. Les chevaux, c'est pour nous le coup de griffe. Hein. Les chevaux ont des jambes et non des pattes. Et puis Thomas qui nous appelle, qui va en parler avec vous, je pense, de toujours le Finistère, tiens, Faou. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Vous voulez évoquer finalement la pression dans le milieu agroalimentaire qui s'exerce sur les prix.
Oui, voilà. Moi, c'est un petit peu exprimer mon désarroi, on va dire, face à la polémique qui enfle là, et la crise de confiance qu'il y a entre les consommateurs et leurs industriels. Moi, je suis un jeune ingénieur agronome. Je suis pas en poste depuis très très longtemps. Mais on nous a fortement marqué dans notre formation que les défis de l'alimentaire et de l'industrie agroalimentaire, c'est dans les années qui viennent, c'est de nourrir plus de personnes avec toujours moins de ressources. Donc inéluctablement, les prix ont tendance à augmenter. On le voit bien sur les matières premières agricoles générales. Ce que je voulais simplement dire, c'est que les consommateurs sont responsables de leurs actes d'achat. C'est-à-dire que on peut avoir un manque de confiance un petit peu dans les industriels, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, 85% des actes d'achat à peu près sur l'alimentaire, en fait, est réalisé en grande surface. Et qu'au travers donc du référencement de ces fournisseurs, les grandes surfaces incitent les industriels à des pratiques. Tout à l'heure, j'entendais un transporteur qui était étonné de voir des lentilles de Chine rentrer dans la composition des aliments William Saurin.
D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont réagi au 64-900 en se demandant ces lentilles sont traitées ou pas.
Oui. Voilà, donc la grande difficulté en fait qu'ont les industriels aujourd'hui, c'est face à la guerre des prix qui est la pression des prix qui est pratiquée par la grande distribution, parce que la grande distribution sont les ardents défenseurs du pouvoir d'achat des Français. J'entendais encore une publicité tout à l'heure de Leclerc, je crois, qui passait moins 40% sur un certain nombre de produits en magasin. Ça encourage les industriels et ça incite les industriels à aller s'approvisionner là où le prix de la matière est le plus faible pour pouvoir être compétitif, tout simplement pour pouvoir conserver des emplois et continuer à exister. Donc aujourd'hui, les consommateurs jugent leurs industriels, mais ne reviennent jamais sur leur pratique d'achat et ne reprennent jamais en considération le fait que produire en France avec un certain nombre de contraintes qui sont liées à la main d'œuvre, qui sont liées à la préoccupation de l'environnement, qui sont liées à la préoccupation du bien-être animal.
Mais dans l'affaire de la viande, vous êtes d'accord, Thomas, c'est pas une question de prix. Là, il y a tromperie sur l'étiquetage.
Il y a eu un problème d'étiquetage, il y a eu un problème de fraude, ça c'est clair. Ouais. Là, dans ce dossier-là, évidemment que les coupables doivent être identifiés.
Et le consommateur, est vraiment pris au piège.
Ah, pour le consommateur, en l'occurrence, dans ce cadre-là, oui. C'est le piège.
Même s'il est responsable de ces achats-là, il est pris au piège.
Et en même temps, Étienne, qui est de la partie, hein, puisqu'il travaille à l'abattoir, nous disait, si vous achetez de la viande très peu chère, c'est qu'il y a un loup, c'est qu'il y a un problème quelque part.
Voilà, et j'ai l'impression que les consommateurs sont complètement déconnectés de la réalité, en fait, de la production et de la réalité du coût des aliments. Aujourd'hui, moi, je me sens un petit peu découragé face aux revendications qu'ont les consommateurs de vouloir acheter des produits qui sont produits dans des conditions toujours meilleures, toujours plus respectueuses, mais qu'au dernier moment, à l'acte d'achat, il n'y a que seul le prix qui rentre en ligne de compte et qu'au final, on sélectionne des systèmes industriels qui sont, pour survivre, sont obligés d'aller chercher de la main-d'œuvre, sont obligés d'aller chercher de la matière première là où c'est le moins cher, même si ça semble incohérent.
Ne
jugez pas trop vite les industriels. Nous, on fait du mieux qu'on peut avec les contraintes qu'on a.
C'est un ingénieur agronome qui vous le dit.
Merci, voilà. C'était intéressant de le rappeler, Thomas. Bonne journée à vous et à Étienne aussi, dans les Vosges. Pas à Bettencourt.
RTL Midi. Les auditeurs ont la parole. Laurent Tessier, le journal du blog.
Bonjour Laurent.
Bonjour à tous.
Alors, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, on entendait une auditrice au 3210 et vous pouvez réagir, et également vous aussi, à la disparition de l'auteur d'Indignez-vous, Stéphane Hessel.
Et c'est un grand monsieur qui nous a quittés, écrit Tiers-Monde. Je retiens de lui l'humaniste qui a lutté avec toute sa conviction contre les idéologies inacceptables. Heureusement pour Philippe II que des personnes de cette trempe ont été présents autour de nous. Merci monsieur Hessel pour tout ce que vous avez fait au cours de votre vie. Je ne suis pas d'accord sur toutes ces prises de position, écrit Le Globule. Il n'empêche qu'il s'est bougé pour défendre ses idées. Et pour 15-15, on apprécie ou pas, peu importe, il restera comme l'une des plus belles plumes. Le reste, il faut aimer et comprendre.
Benoît XVI, adieu à une grande foule à Rome.
Et il restera pour Jeanne Zéroin comme un grand pape qui manquera aux catholiques du monde entier. J'espère que son successeur sera autant à la hauteur. Eliane, 78, se dit toujours déçu de cette démission. Il aurait dû continuer jusqu'au bout, comme Jean-Paul II.
Et puis on parle de foot également sur le blog d'RTL Midi avec ce soir ce OM-PSG. Mais là, c'est PSG-OM, pardon, c'est plus du championnat, c'est le 8e de finale de la Coupe de France.
Et Tintin espère que Marseille remportera ce match juste pour montrer que les millions n'achètent pas tout. Et pour Auditeur 16, ne nous voilons pas la face. Hein. Marseille est en train d'abandonner le championnat au Paris Saint-Germain.
Vous entendez ça, là,
et
Vincent,
le PSG, c'est pour vous, Vincent. Et le PSG va laisser Marseille continuer en coupe. Il faut bien que tout le monde vive. Et on verra ce soir.
Il ne faut pas rêver. Je ne suis pas persuadé.
Allez,
indignez-vous. Je suis persuadé. En tout cas, que le foot soit le monde des bisounours, comme l'entend Auditeur 16. On verra bien, de toute façon, la réponse ce soir.
Merci, Laurent. À demain.
Vincent Parisot, Elisabeth Martichoux. Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi.
On va revenir au chômage, avec beaucoup de témoignages au lendemain des derniers chiffres du marché de l'emploi qui montrent une nouvelle baisse. Ben, bonjour Caroline.
Oui, bonjour.
Bonjour Caroline.
Une hausse du chômage. Hein.
Grès, c'est ça, en Haute-Saône.
Oui, c'est ça, à côté de Grès, en Haute-Saône.
Vous avez 37 ans et vous êtes au chômage depuis déjà quelques mois.
Oui, ben, je dirais plutôt quelques années, parce qu'en fait, depuis qu'on a emménagé en Haute-Saône, donc ça fait pas loin de 10 ans, je suis au chômage, donc je fais à chaque fois des petits boulots, des contrats. Alors j'ai fait des contrats à venir, le dernier c'était contrat unique d'insertion, le CUI, qui a duré 9 mois, donc ça s'est terminé le 2 juillet, et depuis donc plus rien. D'ailleurs, quand on regarde les offres, il n'y a pratiquement rien non plus. Et en plus, je suis arrivée en fin de droit et j'ai pas droit non plus au RSA. J'ai plus droit à rien en fait.
Mais
j'ai plus aucun revenu.
Pourquoi vous n'avez plus droit
Comment
au RSA?
Comment pouvez-vous ne pas être éligible au RSA?
Parce que j'ai un conjoint qui travaille. Enfin, il travaille. C'est un grand mot. Il est intérimaire.
D'accord.
Et donc, à partir du moment où il est intérimaire, il suffit qu'il ait travaillé les 2 mois avant. On a droit à rien.
Et donc, vous êtes en fin de droit dans quelques jours, quelques semaines?
Non, ça y est, c'est fait.
Ça y est, c'est fait, pardon.
Oui, depuis début février, en fait.
Ah oui, depuis un mois.
Oui.
Et vous aussi, vous soulignez, l'incohérence qu'il y a entre le système qui répartit les aides et les périodes de travail?
Bah, oui, mais moi, ce que je souligne aussi, c'est tous les contrats d'insertion qu'on fait. À chaque fois, on nous redonne espoir en nous disant il y a des besoins, de salariés, d'employés. Il suffit de débloquer des budgets, mais il n'y a jamais de budget qui se débloque. Donc, une fois que le contrat est terminé, on nous dit merci, au revoir, et on prendra quelqu'un d'autre.
Parce que ce sont des contrats aidés, évidemment, qui ont une durée de vie qui n'est pas très longue. Et effectivement, il y a un moment où, pour la personne qui en bénéficie, ça s'achève. Et les droits avec, il faut reprendre une autre personne pour que l'entreprise bénéficie des nouveaux droits. Donc, vous allez de contrat en contrat, et finalement, au bout du compte, vous retournez à la case départ, Caroline. Comment vous faites? Vous multipliez les appels, les courriers? Comment faites-vous aujourd'hui pour chercher un travail?
Les offres d'emploi, de Pôle emploi. Mais c'est vrai que quand on habite un petit village dans une région où il n'y a pas beaucoup d'emplois non plus, ça devient compliqué, donc à part les boîtes d'intérim et puis Pôle emploi, il n'y a pas grand-chose. Les candidatures spontanées, j'ai beau en envoyer, en général, j'ai jamais de réponse. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les candidatures spontanées, à chaque fois, il faut mettre un timbre.
Et ça finit par coûter, ça finit par coûter comme ça. Oui, effectivement, parce qu'on en envoie, et on a vite fait de monter à plusieurs dizaines d'euros.
Voilà. Et donc, quand en plus on n'a jamais de réponse, c'est plutôt décourageant, quoi.
Vous pouvez rester en ligne avec nous. Peut-être que Marie-Claude va vous donner un petit peu de baume au cœur. Hein. C'est tout ce que je vous souhaite, Caroline. Parce que Marie-Claude, qui nous appelle de Villeneuve-Saint-Georges. Bonjour, Marie-Claude.
Bonjour à l'équipe. Bonjour aux auditeurs qui participent également. Alors, j'ai peut-être un petit peu de baume au cœur à vous dire. Parce que moi, j'ai fini par sortir de ma situation en passant un concours administratif. Et ça, c'est une bonne idée. Mais il faut quand même que je vous dise quelque chose. Parce que lorsque je me suis retrouvée au chômage, j'ai une licence, une maîtrise de langue et 2 années de spécialisation. On m'a dit, j'avais visé, vu mes connaissances en orthographe, un poste, une formation plus exactement, pour être lecteur-correcteur.
Ah oui.
Et normalement, j'aurais dû avoir une aide dans ce domaine. On m'a dit, madame, vous avez trop de diplômes, on ne peut pas vous aider.
Ah oui.
Alors là, j'ai fait des bons, je ne vous dis pas.
Je veux bien vous croire. Et donc finalement, vous nous disiez, vous avez passé des concours dans l'administration et vous êtes passé du privé à la fonction publique.
Non, pas du tout. J'ai été enseignante et je me suis retrouvée au Trésor public.
D'accord.
Oui, en passant le concours le plus banal qui soit, c'est-à-dire agent du Trésor catégorie C. Mmh.
Donc ça, effectivement, ça vous a permis de vous remettre en selle, effectivement. Alors, c'était il y a quelques années. On va demander à Caroline ce qu'elle pense de tout ça. Bonjour à vous, Caroline, à Nantes.
Oui.
Alors, c'est pas Caroline de Grèce, c'est une autre Caroline.
C'est une Caroline
nantaise.
Oui, nous avons deux Carolines.
Et oui, on a deux Carolines sur
la parole,
l'antenne.
L'une et l'autre. Caroline bonjour, nantaise. Madame.
Caroline à Nantes. Bonjour.
Je suis contente de vous entendre. Moi, c'est un petit coup de gueule que j'ai envie de passer parce que j'étais au chômage, j'avais à peine 800 euros par mois. Et puis, il y a pas très longtemps, il y a quelques mois, j'en ai eu marre. Tout simplement de dépendre d'une administration. Et j'ai accepté de faire des gardes de nuit, j'habite Saint-Nazaire, des gardes de nuit à Nantes. Et voilà, pour une somme inférieure. Donc, ça m'a.
Vous êtes infirmière, vous êtes.
De compagnie, garde de nuit.
D'accord, dame de compagnie, d'accord.
Donc j'ai accepté une situation qui me rapportait moins, évidemment pour l'emploi, m'enlever la différence. Mais ce que je voudrais vous dire, madame, monsieur, c'est que tout simplement, moi je me suis un peu bougée. J'en avais marre, j'avais besoin de travailler, c'est une question de dignité. J'en avais marre de l'assistanat et de cet assistanat qui plombe les gens, qui les empêche d'avancer. On attend tout. J'ai 62 ans, madame. Et j'y vais avec plaisir. Je n'ai pas le choix. Je ne pose même pas la question de savoir si c'est bien, si c'est pas bien. J'étais payée 30 euros net comme date de compagnie. Maintenant, je suis à peine à 11 euros net. Je n'ai pas le choix et ça m'est complètement égal. Mais j'ai la dignité de travailler.
Oui, Caroline, vous avez fait vos calculs, j'imagine, quand même, à un moment. Vous vous êtes dit, je vais retravailler, mais à l'arrivée, je ne toucherai pas plus. Peut-être même que je toucherai un peu moins.
C'est moi, monsieur. Alors, ce qui s'est passé, parce que j'ai 62 ans, il faut être très honnête jusqu'au bout, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 mois, la NPE, Pôle emploi m'a écrit en me disant, madame, vous avez 62 ans, vous avez 4 enfants, eh bien, on vous a dit, et vous pouvez demander votre retraite. J'ai pas eu le choix. Quand vous avez été mère de famille pendant 20 ans, vous n'avez pas une retraite exorbitante, loin de là. Mais que voulez-vous, monsieur? Dans tous les cas, je suis obligée de travailler jusqu'à 75, 80 ans, tant que j'aurai la santé, je serai obligée d'aller travailler. Je ne me pose pas de questions. Je prends mon train tous les soirs pour Nantes. Je vous dis, aller-retour, 130 km, plus 7 km à pied, il faut
7 km à pied, Caroline?
Parce que je vais de chez moi à la gare de Saint-Nazaire à pied et arriver à la place du commerce de Nantes jusqu'à mon lieu de travail, j'ai 2,5 km à faire, à pied, le soir très tard. Je ne réfléchis pas, madame. Je vais travailler.
Eh bien, merci en tout cas pour ce message que vous avez adressé à tous les auditeurs d'RTL, Caroline à Nantes. Merci à l'autre Caroline qui
va prendre la parole dans quelques instants parce qu'on ne l'a pas encore entendue.
Caroline, Rachida et Marie-Claude, merci à vous toutes parce qu'en l'occurrence, on n'avait que des dames. On va vous retrouver dans un instant au 3210. À tout de suite.
Réagissez sur l'actualité.
Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi. Elisabeth Martichoux, Vincent Parisot.
Alors, on récapitule Caroline et Caroline. On les remercie, on les a entendus. De Nantes et de Grès. Merci, mesdames, de nous avoir appelés. C'est Rachida, donc, maintenant, qu'on accueille au 3210.
Merci un peu vite, Rachida.
Bonjour à vous, Rachida.
Bonjour.
Oui, bonjour.
À Bordeaux.
Bonjour. Oui, voilà. Oui, on a un très beau soleil.
Bon, vous avez une très belle ville que je connais bien. Vous travaillez, vous, Rachida,
dans une société de transport. Voilà, donc moi j'ai toujours travaillé et moi je poussais un petit cri d'alarme simplement pour les chômeurs longue durée, les choses comme ça. Je pense que c'est le système qui rend les gens à devenir, je vais pas dire feignants parce que tous les chômeurs sont pas feignants, il y en a beaucoup qui veulent travailler, mais c'est le système. Moi j'ai toujours dit qu'il y avait pas de différence parce que j'ai des amis, donc on parle un peu, j'en ai qui travaillent et d'autres pas. Et il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui touche le SMIG et quelqu'un qui touche le RSA, par exemple. Parce que si on accumule le RSA plus la CMU, plus les avantages, c'est pas des avantages, mais entre parenthèses, tout ce qu'ils peuvent obtenir en étant au RSA, quelqu'un qui touche le SMIG, il est obligé de payer sa mutuelle, il est obligé de faire garder ses enfants, de payer son essence pour aller travailler. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdants sur ce système-là. Et moi, je connais des gens qui ont fait leurs calculs, non pas comme la dame là qui prend le train et qui va travailler, qui sont perdants et qui préfèrent être assistés plutôt que d'aller travailler.
Mais oui, c'est ce que nous disent d'ailleurs régulièrement des auditeurs.
Moi, j'ai des amis autour de moi, comme ça. Moi, il y a quelques années de ça, j'avais droit à un congé parental de 3 ans. J'ai pris 6 mois de congé parental. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre. J'ai dit, je reprends mon travail. Mes amis m'ont dit, mais tu as tous les avantages à rester à la maison, à garder ton enfant. J'ai dit, non, j'ai besoin d'une vie sociale. Parce que c'est vrai qu'à force de rester à la maison, moi, je pense qu'on a, même si on y perd un petit peu, après, c'est chacun comme il le voit, mais on a besoin de voir des gens sortir de la routine de la maison, des enfants et tout ça. Et je pense que le travail apporte un plus, pas que l'argent, on en a besoin. Nous, on travaille à deux et on a du mal à finir les fins de mois. Mais je veux dire, ça, on a du mérite à se lever le matin, à aller travailler, même si à la fin du mois, on n'a pas assez pour vivre. Mais je pense que le système et notre gouvernement doivent revoir ça.
Très bien, c'est un peu ce qui avait été tenté avec le RSA, hein, qui remplaçait le RMI pour que ce ne soit pas que un revenu d'assistance, mais aussi un revenu d'accompagnement de l'emploi dont on pouvait garder une partie. Mais il y a encore des situations dans lesquelles ça n'est pas plus intéressant.
Et moi, quand on me dit, quand j'entends aux infos et tout ça, qu'ils sont en train de faire la chasse aux gens qui sont trop longtemps au RSA, mais il n'y a rien qui est fait. Moi, j'ai des amis, ça fait des années. Ils sont passés du RMI au RSA, sans jamais avoir travaillé nulle part. Donc, je ne trouve pas ça normal.
C'est dit. Eh bien, écoutez, merci, Rachida.
Nous qui travaillons souvent, on se dit on est toujours en train de payer pour les mêmes. Je sais que ce n'est pas évident d'être au chômage. Hein. Ça, ce n'est pas ce que je conteste du tout. Mais c'est les gens qui s'habituent à ne pas travailler et attendre l'aide.
Surtout que dans le même temps, et restez en ligne avec nous, Rachida, dans le même temps, il y a des patrons qui cherchent à embaucher et qui ne trouvent pas. Je voudrais donner la parole sur ce dossier à Sylvie. Dans le Jura, tiens, on retourne dans le Jura, allons se soigner. Bonjour Sylvie.
Bonjour à vous. Bonjour à tous.
Vous êtes chef d'entreprise, hein ?
Alors, je suis responsable d'une toute petite entreprise, TPE, hein, comme on les appelle. On est 5 personnes seulement. Je suis passée par des moments très difficiles. J'ai dû licencier des gens pour des facteurs économiques. Donc il y a deux incohérences, moi. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait la dame juste avant. Et voilà, il y a également une incohérence entre toutes les entreprises qui cherchent à recruter et qui ne trouvent pas de gens qui veulent bien travailler. Et je ne comprends pas l'incohérence et je ne comprends pas qu'on ne s'y intéresse pas.
Est-ce que c'est votre cas d'ailleurs ou pas dans votre secteur ?
Non, mon cas c'est que j'ai énormément de travail puisque l'activité économique a repris et donc j'ai beaucoup de travail. J'ai pu recruter à nouveau. Sauf que malheureusement je ne peux pas augmenter le temps de travail de mes salariés.
Vous voudriez les faire travailler plus de 35 heures.
J'aimerais bien qu'ils travaillent plus, sauf que je n'en ai pas les moyens et que l'État n'aide pas non plus les entreprises, ou du moins les petites entreprises, à se sortir de là.
Donc, c'est moi, la deuxième incohérence que vous vouliez souligner.
C'est la deuxième incohérence, voilà. Ouais. C'est qu'en réalité, je travaille 80 heures par semaine pour arriver à faire vivre mon entreprise. J'ai une secrétaire qui travaille à temps partiel et elle voudrait bien travailler plus, mais je ne peux pas la faire travailler plus. Parce que c'est pas possible financièrement et ça mettrait en danger l'entreprise. Donc voilà, c'est moi qui travaille, ce qui est normal, hein, je m'investis, mais moi je voudrais
mais
pouvoir
embaucher.
Mais
donc vous dites que c'est un frein à l'emploi, quoi, aujourd'hui, de conserver cette loi alors qu'il y a un chômage de plus de 3 millions.
Voilà, je ne comprends pas tout ça.
Ouais. Bah écoutez, c'est dit, c'est intéressant d'avoir toutes vos expériences, hein. Sylvie, du côté du patronat, j'allais dire, même si c'est une toute petite entreprise, c'est quand même une direction d'entreprise. Rachida aussi qui travaille. Merci à vous. Je suis dans le même cas que cette dame et je lui dis bravo, nous dit-on, au 64-900. Cette dame, c'est Caroline,
Caroline
à Nantes qui prend son train la nuit à 62 ans pour aller travailler, pour être garde de nuit parce qu'elle veut éviter l'assistanat. Merci à tous. On se retrouve demain à 12h30.
Merci.
Et dans un instant, bien sûr, Jacques Pradel.
On va tout de suite, si vous voulez.
On allait vous oublier, Jacques.
Non, jamais.
Bon, bonjour Elisabeth, bonjour Vincent.
Bonjour Jacques. À vous, Jacques. La double vie de l'étrangleur, quel programme?
Ah ben on dirait un titre hein, de roman policier ou de film. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment la radioscopie effectivement d'une affaire criminelle digne d'un roman de Georges Simenon. Un crime passionnel commis par un homme ordinaire qui va se transformer en bourreau d'une innocente victime, une jeune étudiante américaine qu'il va enlever, séquestrer, étrangler au bout de 9 jours d'un terrible huis clos dans les caves de l'université de Montpellier. L'enquête, il faut le dire aussi, a été menée par un véritable Columbo de la gendarmerie et cette enquête va déboucher sur une extraordinaire révélation. L'assassin, que tout le monde appelait Léon qui boite, avait une double vie, une vie secrète et nocturne qui allait permettre de lever le voile sur ses pulsions meurtrières. Voilà. Et on va vous raconter cette histoire avec mon invité, spécialiste de police judiciaire, Jean-Pierre Fabre, qui dans le passé a commandé la compagnie de gendarmerie de Lyon-Bron. À tout de suite.